Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, toujours fidèles au poste, c'est Laurent Neumann.
Salut tout le monde, Alexandre Devecchio, fidèle au poste également.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Les Français évoluent sur la vaccination, ils sont majoritairement pour la vaccination obligatoire désormais et des contraintes pour les non-vaccinés, on va en parler dans un instant. Mais avant, quel est le programme, Lisa Marie, de C'est bon à savoir? C'est à 13h50.
Oui, imaginez travailler 4 jours et avoir 3 jours de week-end. L'Islande l'a testé et c'est un immense succès, alors on en parle tout à l'heure.
Oui, 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 militons pour la semaine de 4 jours. C'est un combat que je trouve... Il faut le mener. Voilà, je vous le dis, 4 jours, ça me paraît bien. Allez,
mais
avant.
D'où tout ce qui te fait plaisir, on est d'accord.
Eh bien, milite avec moi pour la semaine de 4 jours. Excellent. Mais 4 jours, on en parlera avec Lisa Marie. Intense, attention. Avant, on va parler des Français qui évoluent. Selon un sondage Elab pour BFM TV publié hier, la tendance à la vaccination est en net progrès puisque ce sont désormais 3 Français sur 4 qui disent vouloir ou se sont déjà fait vacciner contre la Covid-19. Un chiffre qui ne cesse de progresser. En ce qui concerne la vaccination obligatoire à l'ensemble de la population, il y a un consensus quasi total désormais. 61% des sondés se disent favorables pour les adultes et les adolescents. Et la fracture vaccinale commence à se faire sentir entre les vaccinés et les non-vaccinés. 61% des Français également se disent favorables à la mise en place de mesures de restriction comme l'interdiction d'accès à certains lieux ou l'interdiction d'exercer sa profession si on n'est pas vacciné. Pour Elisabeth Borne, la ministre du Travail, c'est clair, s'il y a obligation vaccinale, il y aura des licenciements, on l'écoute.
Quand on a une obligation de vaccination et qu'on ne la respecte pas, c'est une faute. Donc ça peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Et donc ça fait partie aussi des sujets qu'on doit évoquer avec les organisations patronales et syndicales demain.
Voilà, l'été sur Europe 1 ce matin. Alors et vous, est-ce que vous êtes favorable à des restrictions pour les non-vaccinés, Laurent ? Tu es pour ?
Oui, alors très honnêtement, j'ai longtemps été contre.
Oui, on se souvient.
Mais sauf qu'à un moment donné, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument tout faire pour tourner la page, passer à autre chose, arrêter les confinements, les couvre-feux, etc., ben moi je dis qu'il faut choisir. Et moi, tu sais qu'à titre personnel, je suis plutôt contre la vaccination obligatoire. Mais si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, alors, bah oui, il faudra sans doute des restrictions pour les non-vaccinés. Et ça pour au moins 2 raisons. D'abord pour une raison sanitaire, parce que les non-vaccinés, par définition, bah, ils font beaucoup plus circuler la maladie que les personnes vaccinées. Donc pour des raisons sanitaires, il faudra peut-être leur interdire l'entrée dans certains lieux. On le fait déjà avec le pass sanitaire, puisqu'il faut un pass sanitaire pour rentrer dans un stade, pour rentrer dans un concert de plus de 1000 personnes, pour aller dans les forums et les salons où il y a beaucoup de monde, etc. Peut-être que demain, il faudra élargir ces activités-là. Bon. Mais surtout pour inciter les gens à se faire vacciner. Parce que ce sera tellement douloureux de ne pas aller dans certaines activités sociales de tous les jours. Je pense par exemple si on étendait ça au restaurant, si on étendait ça au salon de coiffure, au salon d'esthéticienne, au théâtre, au cinéma, etc. Bah, ce serait tellement compliqué pour les non-vaccinés que ça deviendrait une incitation à aller se faire vacciner. Donc ça fait au moins 2 bonnes raisons. Mais si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, ce que je peux parfaitement entendre à titre personnel, malheureusement, on risque de devoir aller vers certaines contraintes de ce type, oui, pour les non vaccinés.
Alexandre, tu es contre ?
Oui, je pense qu'il n'y a pas assez de chômeurs dans ce pays. On va mettre au chômage ceux qui ne voudront pas se faire vacciner.
Tu ne me réponds pas ça, c'est le contraire. Je te dis, puisqu'on ne veut pas de la vaccination obligatoire, qui, elle, tu as raison, peut conduire à des licenciements,
les autres chemins.
Eh ben, il faut passer par les autres chemins. Mais on ne peut pas dire non à tout.
Non, mais je pense que nous n'en sommes pas là. On a commencé par dire que 3 Français sur 4 souhaitaient se faire vacciner. Je pense qu'on peut vaincre cette épidémie, pas l'éradiquer, parce que de toute manière, il faudra vivre avec le virus et sans doute faudra se refaire vacciner chaque année. Mais voilà, je pense qu'on peut vivre avec le virus tout en respectant ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. À partir du moment où les populations populations les plus à risque sont vaccinées, on sera sorti de cette crise. Donc je vois pas pourquoi on est dans ces injonctions là et vous imaginez la société à deux vitesses que vous créeriez si vous établissez ce type de contraintes. C'est pas souhaitable et pas réaliste. Donc là encore, on fait peur aux gens, on est dans la coercition. Je pense qu'il vaut mieux faire une dynamique d'entraînement d'ailleurs.
Mais d'accord, il y a un point sur lequel on peut être d'accord, toi et moi. Si tu ne veux pas de la vaccination obligatoire, comme moi, si ces restrictions t'ennuient au nom du respect des libertés, très bien. Mais dans ce cas-là, il y a une façon très simple d'échapper à l'un et à l'autre. C'est que les gens aillent se faire vacciner.
Oui, les gens vont aller se faire vacciner.
Et mieux que ça, on échappe au confinement, on échappe au couvre-feu.
3 Français sur 4, il faut simplement expliquer aux Français que le meilleur moyen de tourner la page le plus rapidement aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de traitement, qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de se faire vacciner. Je pense que ça suffit. Il ne faut pas être hypocrite. Si on est contre la vaccination obligatoire, on ne peut pas mettre en place ce type de restriction, puisque mettre en place ce type de restriction, c'est de fait rendre la vaccination obligatoire. Alors, on
ouais, enfin, je te rappelle quand même que 1, le vaccin, il est fiable. 2, il est efficace.
Le contraire.
Et 3, il est gratuit. Il est gratuit. On est dans un pays quand même extraordinaire. Les tests sont gratuits, les vaccins sont gratuits. Et en plus, ça nous protège.
Mais tu vas voir au 32-16 qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore envie de se faire vacciner. Ouais. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, que pensez-vous de mettre en place des restrictions pour les non-vaccinés? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Laura, qui est infirmière en psychiatrie, qui nous appelle depuis Cherbourg en Cotentin, c'est dans la Manche. Bonjour Laura.
Bonjour à tous.
Toi Laura, tu n'es pas vaccinée et tu ne vaccines pas tes patients?
Non, tout à fait. Alors moi j'exerce en psychiatrie, voilà, depuis, ça va faire un an, au mois de septembre. Je suis diplômée depuis 2 ans. Et il s'avère que tout ce qu'on entend, etc., ça m'alarme beaucoup. Voilà. Alors moi, je suis plutôt de l'avis d'Alexandre Devecchio. Voilà. Alors avec des petites divergences aussi, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas de recul par rapport à ce vaccin-là. Donc on ne sait pas les effets comparés. Enfin, quand on compte un petit peu ce que Laurent Neumann a dit, pour moi, non, on n'a pas de recul. Un vaccin on ne peut pas avoir d'effet au long terme en ayant un vaccin en un an. Ce n'est pas possible. Alors je tiens quand même à préciser que je ne suis pas contre la vaccination. Je trouve qu'il y a eu de grandes avancées. On met en avant Pasteur, effectivement. On a vaincu beaucoup d'épidémies et c'est très bien. Je suis pour la vaccination, mais pas pour celle qu'on veut absolument nous infliger, nous obliger par rapport au Covid. Parce que pour moi, il n'y a pas assez de recul.
Donc ce qui veut dire que toi, si on t'oblige, Laura, dans ton métier, si demain tu ne peux plus travailler parce que tu n'es pas vaccinée, qu'est-ce que tu fais? Tu pars?
Ah oui, je pars. Je démissionne. Je n'attends pas qu'on me licencie, par contre. Ce sera ma décision à moi.
Donc tu préfères sacrifier ton métier?
Alors malheureusement, parce que moi j'ai choisi ce métier-là justement par cœur, hein. Je le fais avec mon âme, avec ce que je suis. Voilà, je l'ai choisi pour aider mes patients, pour les accompagner, pour un petit peu, alors ça va paraître peut-être un petit peu trop, mais c'était pour cette main qu'on peut leur tendre quand ils sont justement en souffrance. Alors moi je suis plus dans la psychiatrie, donc je peux vous dire que tous les jours j'en entends beaucoup et ça fait beaucoup de mal cette crise sanitaire-là, parce qu'il y a d'autres effets et malheureusement on n'en entend pas assez parler. Et franchement, ça a eu beaucoup d'impact. Et je l'aime, mon métier. Je l'exerce avec mon âme et avec ce que je suis. Et je serais très malheureuse si je devais le quitter, parce que j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices pour en arriver où je suis, pour arriver à faire ce métier-là.
Laura, oui. C'est Laurent, pardon. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Il y a un point commun entre toi qui ne veut pas te faire vacciner pour les raisons que tu as expliquées et moi qui pense qu'il faut se faire vacciner. Le point commun, c'est que j'imagine qu'on a tous les deux envie de tourner la page, de passer à autre chose, d'arrêter avec ces contraintes sanitaires, ces confinements, ces couvre-feux, les confinements et les restrictions sanitaires qui ont fait un mal de chien aux patients dont tu t'occupes, ceux qui sont justement en psychiatrie, la perte en termes de mémoire, de vie active, etc., était terrible pour les patients que tu dois rencontrer. Donc toi et moi, on veut tourner la page. Il n'y a que le vaccin pour le moment qui nous permet de tourner la page.
Eh ben, c'est justement le problème. C'est ce qu'on veut nous faire croire, qu'il n'y a que le vaccin. En fait, ce vaccin a l'air d'être un antidote contre tous les variants. Alors, on a beaucoup de variants, apparemment, parce que tous les jours, on nous sort des noms, des mutants, des variants. Enfin, c'est incroyable. Et ce vaccin-là, bizarrement, agit sur tous les variants. Or, il a été fabriqué normalement avec la première souche du Covid. Donc, on ne peut pas dire qu'il agit forcément sur tous les variants, ce n'est pas possible. Et on a voulu nous faire croire que ce vaccin-là allait nous
sauver. Il est possible, Laura, qu'un jour, on découvre un variant auquel le virus ne permet pas de répondre. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on a une chance absolument incroyable. Pour le moment, c'est efficace, c'est fiable, et ça répond à tous les variants qu'on découvre. Mais peut-être que demain, on va, à force de laisser la maladie circuler, peut-être qu'un nouveau variant va apparaître et que les vaccins n'y répondront pas. Là, ce serait le drame.
Oui, mais alors, ce qui est interrogeant quand même, ce qui peut m'interroger, moi, c'est que l'année dernière, on en était au même point, on n'avait pas de vaccin, et pourtant, l'épidémie a reculé. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le vaccin, à l'époque, avait fait reculer l'épidémie. Or là, on veut absolument nous infliger ce vaccin-là sous prétexte qu'on va retrouver nos libertés. Or, aujourd'hui, là, vous voulez absolument mettre des restrictions aux non-vaccinés. Pour l'instant, les vaccinés ne devraient déjà plus avoir peur, devraient enlever leur masque, ne plus avoir de distanciation sociale et pouvoir revivre normalement. Or, ils ont toujours cette peur-là parce que, soi-disant, nous, non-vaccinés, c'est nous qui sommes dangereux pour eux. Alors que non, si on suit leur logique, ils sont vaccinés, donc ils sont protégés contre le virus. Donc si c'est quelqu'un doit avoir peur, c'est les non-vaccinés. Donc si les non-vaccinés ont peur, ils se font vacciner. Donc, la logique n'est pas bonne pour les vacciner, là.
Ouais.
Laura, reste avec nous, est avec Mathieu, qui lui pense à peu près le contraire de toi, qui est professeur des écoles, qui nous appelle depuis le Jura, au Molune. Bonjour Mathieu.
Oui, allô, bonjour à tous.
Toi Mathieu, tu attends ta deuxième dose, tu penses qu'il faudrait rendre le vaccin obligatoire ?
Oui, je pense, alors je vais essayer de répondre un petit peu à ce que j'ai entendu de la part de l'auditrice aussi. Je pense que il faut rendre alors le vaccin obligatoire, en tout cas aussi mettre des restrictions pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, excusez-moi. Pas pour les punir, mais pour les inciter à se faire vacciner, et parce que je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce qu'on j'entendais parler des variants et moi je pense que l'incertitude que certains ont vis-à-vis des effets que pourrait avoir le vaccin, ils pourraient autant se poser la question de si on laisse cette épidémie continuer, il y a tous ces variants possibles qui peuvent arriver et qui pourraient totalement nous échapper. J'appelais aussi par rapport au fait, je suis professeur des écoles, je suis papa de jumelles, et franchement, moi si je me fais vacciner, vous l'avez entendu, je suis dans le Jura, je suis dans un coin perdu, je suis pas trop concerné par le fait d'aller au cinéma, au restaurant, tout ça. Moi, si je me fais vacciner, c'est avant tout pour l'avenir des jeunes, des enfants. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, un nouveau variant va peut-être toucher les enfants, à force, on ne sait pas.
T'as peur pour le futur, quoi.
Tout à fait. Mmh. Et surtout, pour le futur, moi, mes filles, moi, je vais peut-être faire réagir, mais pour moi, les parents, et même les grands-parents, qui refusent le vaccin sont pour moi entre guillemets irresponsables vis-à-vis de l'avenir de leurs enfants.
Ouais. C'est un peu la question qu'on a envie de poser à Laura. Laura, quand tu dis que tu ne crois pas à l'efficacité du vaccin, que finalement tu ne crois pas aux études scientifiques, tu ne crois pas aux médecins qui sont autour de toi, est-ce que vraiment, je suis désolée de te poser la question comme ça, mais est-ce que ta place est au sein d'un hôpital dans un monde qui doit être un petit peu scientifique ?
Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai choisi ce métier-là pour m'occuper des patients. Or là, moi, je prends le problème à l'envers. Pour moi, justement, ce vaccin-là, il n'a pas de recul, donc c'est potentiellement un danger pour mes patients. Mais je suis ma logique. Je ne le fais pas pour moi parce que je ne sais pas les effets qu'il aura sur moi dans quelques années. Mais je ne le fais pas pour mes patients parce que j'estime que je n'ai pas à prendre cette responsabilité-là, potentiellement, que ce soit dangereux pour eux. Quand vous regardez, en fait, quand vous allez vous faire vacciner contre le Covid, on vous donne un papier par lequel vous devez engager votre consentement et votre propre responsabilité pour vous faire vacciner. Voilà, vous signez un papier. Donc, s'il vous arrive dans quelques temps, dans quelques années, parce qu'on ne peut pas savoir, une maladie auto-immune, comme beaucoup de vaccins peuvent, par exemple, mener, vous signez, voilà, vous vous engagez à signer cette décharge-là. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans tous les vaccins
qui existent
depuis des années?
Bah, quelqu'un a signé une décharge, parce que moi, personnellement, je n'ai pas signé de décharge. Hein. Je vous le dis tout de suite, tu as signé une décharge, Laurent, quand tu as été te faire vacciner. Non. Alexandre, tu n'as pas signé de décharge.
Personne n'a signé qu'il y a de pas décharge. Il n'y a pas la garantie de l'État sur ce vaccin en cas d'effet secondaire, en cas de pépin. Et je pense que ça rassurerait tout le monde, surtout si on veut aller vers la contrainte. Je pense que l'État doit s'engager à prendre ses responsabilités.
Voilà. Non, le problème, c'est que le raisonnement de Laura pour ce vaccin-là, le fameux argument « on n'a pas assez de recul », il est vrai, c'est un argument que tu peux reprendre pour tous les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Dès qu'un médicament a une autorisation mise sur le marché, il a eu quelques mois, voire quelques années d'études, mais par définition, tant qu'il n'a pas été utilisé en population générale, tu peux dire « ah ben non, il n'y a pas de recul, je le prendrai que dans 5 ans, 10 ans, pour voir s'il n'y a pas
eu d'effet secondaire ». Les essais sont plus longs sur… Habituellement.
Qu'on est à 3 milliards d'injections hein, et que le virus, encore une fois, a tué beaucoup plus de gens que le vaccin. Hein.
On va continuer à parler des restrictions pour les non-vaccinés. Un grand merci à Laura et à Mathieu d'être venus débattre avec nous dans Neumann Le Chip. On vous attend, vous, au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi, 14h, Neumann Le Chip.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chip, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Interdiction d'accès à certains lieux, interdiction d'exercer sa profession. 61% des Français sont favorables à des restrictions pour les non-vaccinés. Alors vous, qu'en pensez-vous? Laurent Neumann est pour, si on ne veut pas de la vaccination obligatoire. Il n'y a pas d'autre choix. Alexandre Devecchio est contre, c'est une atteinte trop forte aux libertés. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
On parle Covid, on parle vaccin, vous êtes partagé. Je vous laisse deviner cette première tendance à votre avis.
50-50,
égalité parfaite, vous avez raison.
C'est un sujet Covid, c'est toujours comme ça. Avant d'aller au 32-16, on est avec André Grimaldi, cofondateur du collectif Interhôpitaux et professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour André Grimaldi.
Bonjour.
Avant de rentrer dans la question des restrictions pour des non-vaccinés ou pas, je voudrais juste revenir sur la question de la décharge. Notre auditrice qui était juste auparavant avec nous, Laura, qui est infirmière en psychiatrie, qui ne veut pas se faire vacciner et ne vaccine pas ses patients, disait « on signe une décharge quand on se fait vacciner ». Est-ce que c'est exact?
Écoutez, moi j'étais dans un centre de vaccination de la Pitié-Salpêtrière. Les patients ne signaient absolument pas de décharge. C'est moi qui leur remettais leur certificat de vaccination et qui éventuellement leur prescrivait de Doliprane s'ils en avaient besoin. Mais non, pas du tout. C'est un acte médical et on ne demande jamais à quelqu'un de signer une décharge qui chargerait la responsabilité de la personne qui fait la vaccination ou éventuellement du laboratoire ou de l'établissement de santé.
Laura, elle disait, si vous me forcez à me vacciner, je démissionne, j'arrête, je laisse tout tomber, alors qu'elle avait l'air plutôt passionnée par son métier et investie. Vous pensez que des gens comme Laura, il y en a beaucoup dans le secteur hospitalier, dans les EHPAD?
Je pense qu'il y en a très peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent pour beaucoup de raisons. Il faut s'interroger sur ces raisons. Hein. La prévention en France est... On est très en retard par rapport à d'autres pays, dans la population générale, mais aussi chez les soignants. Par exemple, la grippe, les soignants sont très peu vaccinés, enfin très insuffisamment vaccinés contre la grippe. Et chaque année, il y a entre 5000 et 10000 décès dus à la grippe, notamment dans les EHPAD. Donc, ce n'est pas une histoire nouvelle. Hein. Par contre, beaucoup disent, si c'est obligatoire, je le ferai. C'est la grande majorité. Pour une raison simple, c'est que le premier principe de tout soignant, qu'il soit en ville, à l'hôpital, privé, public, le premier principe, c'est ne pas nuire. Ne pas transmettre une maladie nosocomiale, ne pas être responsable de maladie. Quand vous êtes à l'hôpital, vous dites « je vais être sûr de ne pas attraper une maladie en plus ». Alors, on a des vaccins efficaces pour le Covid-19, aussi pour le pneumocoque. Bon, il faut maintenant changer cette culture. Cette pandémie nous apprend ça. Au fond, c'est quoi le vaccin? C'est une mesure barrière, c'est la plus efficace des mesures barrières. Elle n'est pas à 100%, mais quand on respecte les mesures barrières, et bien on dit en plus, on prend le vaccin. Alors maintenant, on a un vaccin qui est très sûr, qui n'a pas d'effet secondaire. Tout d'un coup, alors que plein de pays aimeraient tellement avoir le vaccin, on a un comportement de pays riches en disant « non, je ne me vaccine pas ». Donc je crois qu'il faut discuter. Si un soignant ne veut pas se vacciner, on parle avec lui. Pourquoi? Quelles sont ses raisons? Et si c'est systématique, s'ils pensent que les vaccins, c'est un poison, bah, ils s'est trompé un peu de métier.
André Grimaldi, vous avez défendu la vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire étendre cette obligation à toutes les professions, par exemple, qui sont en contact avec le public, et même l'étendre jusqu'à l'ensemble de la population générale?
Alors, il y a une première chose, il y a l'étendre aux personnes qui sont en contact et qui s'occupent de personnes fragiles, c'est-à-dire les soignants à domicile, les secrétaires dans une EHPAD. Ça, c'est une chose. Autre chose, et faut-il l'étendre dans la population générale? Il y a une spécificité des soignants, celle que j'ai dit. Hein. D'abord, ne pas nuire. Moi, quand je vais dans un supermarché, un grand magasin, je ne confie pas ma santé au vendeur ou à la caissière. Donc, il y a une spécificité. Ensuite, pour éviter la quatrième vague, il faut étendre la vaccination. Alors, si vous me demandez, en tant que médecin, qu'est-ce que je pense, oui, il faut étendre. Mais après, la politique, c'est une autre décision. C'est une décision, est-ce qu'elle va être appliquée? Là, on est dans autre chose qu'une exigence professionnelle comme pour les soignants. Et je pense qu'il faut avancer. C'est-à-dire, le pass sanitaire, c'est aussi un moyen. Alors, c'est pas le pass sanitaire partout, évidemment, mais pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour aller dans des concerts où il y a beaucoup de monde, on peut...
Pour aller au restaurant ou chez le coiffeur?
Non, ça, je pense pas. Je pense que la vie quotidienne doit être possible facilement. Mais par contre, là où il y a des vrais risques, c'est-à-dire des lieux fermés où il y a beaucoup de monde, ou alors on reveut des jauges, on reveut tout confiner. Alors, ça serait absurde. Je crois que là, utiliser le pass sanitaire, c'est une bonne chose. Le pass sanitaire, il dit soit vous êtes vacciné, soit vous avez eu la maladie, soit vous êtes négatif. Puis après, il y a des gens qui sont rétifs. Alors, il se pose la question, est-ce que la solidarité nationale doit financer les tests itératifs des personnes qui veulent absolument pas se vacciner ou pas? Ça, c'est un choix politique de société. Est-ce qu'on rembourse ou on rembourse pas? C'est un choix personnel. Est-ce que la solidarité sociale est faite pour rembourser les choix personnels? Certains, oui, ça a décidé politiquement. Donc, en tant que médecin, ma réponse, elle est oui, il faut vacciner pour éviter la quatrième vague, le pire du pire qui peut nous arriver. Après, en tant que politique, je sais pas ma décision à prendre. Il faut évidemment qu'il y ait un consensus national pour décider. Je pense que pour les soignants et les gens qui travaillent dans les établissements de soins, il y a un consensus et une règle professionnelle. Donc, il faut le faire. C'est pas un métier comme un autre. Hein. On a dit hôpital-entreprise. Non, l'hôpital, c'est pas une entreprise comme une autre.
Et c'est vrai que quand on va
à la première vague, on applaudissait les soignants.
C'est vrai que quand on va à l'hôpital ou quand on confie ses proches fragiles à un établissement comme un EHPAD, on a aussi besoin d'être en confiance. Et donc, la confiance, elle commence par là.
Mais évidemment, vous savez, nous, à Sciences Publiques, on nous distribue des badges pour mettre un badge sur lequel je suis vacciné.
Oui.
Alors, est-ce que les non-vaccinés ou les quelques minoritaires qui vont refuser vont dire aux patients, vous savez, je ne suis pas vacciné, vous le prévenir? Ben, il y a un côté absurde. Hein. C'est comme un soignant qui ne s'avrait pas des mains avant de faire des soins. Moi, j'ai connu une fois un soignant qui refusait de mettre des gants pour faire des soins des plaies à des pieds diabétiques. La surveillante lui a dit, monsieur, vous ne restez pas dans le service. Hein. On ne peut pas être soignant et transmettre des infections à des patients. C'est une lutte quotidienne.
Hein. André Grimaldi, restez avec nous. J'aimerais que vous discutiez avec Bertrand, qui nous appelle depuis Samonia dans l'Ain, qui est maraîcher. Bonjour Bertrand.
Oui, salut à tous.
Salut à toi Bertrand. Toi, tu n'es pas vacciné Bertrand, et tu ne comptes pas le faire?
Ah non, absolument pas, non.
Alors, pour quelle raison?
Non, alors moi, pour moi, il y a un faux débat, parce que, à mon sens, la raison de départ qui est toujours invoquée, il n'y a pas de recul. Si ça, pour moi, elle n'a pas spécialement d'importance. Le recul, c'est sûr, on le verra à long terme, mais ça n'a pas d'importance. C'est plus que je vois pas, en fait, je comprends pas l'utilité, si ce n'est que c'est une forme d'entre guillemets traitement préventif comme la grippe. Donc pour tous les gens qui ont des comorbidités, qui peuvent être fragiles et autres, ça je comprends. Après, là où je comprends pas, c'est qu'on va aller, en gros, former d'ailleurs une forme d'agression sur les personnes qui sont non vaccinées, en disant ah vous allez être la cause de la suite. Moi je comprends pas pourquoi, parce que il y a un moment donné, je veux dire, le vaccin, là on a les dernières données israéliennes, a priori il a une capacité jusqu'à 64% de réduction de la transmission. 64%! Ça en reste quand même une bonne partie derrière. Donc, on peut quand même transmettre, même si on est vacciné. Donc, même s'il y a 100% de la population qui est vaccinée, comme disait le professeur Pittet, le Martin Blachier aussi, qui l'a dit récemment, ça empêchera pas la transmission du virus. Donc, qu'on laisse les gens qui ont, comme moi, pas envie de se faire vacciner, prendre le risque pour nous de faire une forme grave, parce que la vérité, elle est là, elle est sur la tension hospitalière, et ça, je l'entends tout à fait. on a un problème avec ça. Il y a pas de souci. Donc pour réduire cette tension hospitalière, il y a ce risque flagrant de dire il y a des gens qui vont mourir parce que on n'a pas de quoi en gros les accueillir en hôpitaux. Dans ce cas-là, on vaccine, mais je veux dire, on vaccine que pour les gens qui ont ce risque-là, ceux qui veulent prendre
donc
le risque.
Donc toi, tu veux dire, Bertrand, que toi, tu te dis, moi, je prends le risque de faire une forme grave.
Mais, voilà, en gros.
Toi, tu prends ton risque.
Tout à fait, c'est mon risque et c'est là où j'interviens.
Bertrand, si je te dis que le vaccin coûte une dizaine ou une vingtaine d'euros, et que demain, si tu fais une forme grave de la maladie et que tu passes 3 semaines en réa, tu vas coûter 50 000 euros.
Ah oui, bien sûr, tout à fait, j'entends. Hein.
Voilà.
André Grimaldi, peut-être...
Mais par contre, on peut prendre le quota inverse, je veux dire, en termes monétaires. C'est combien de personnes on a vacciné pour combien de personnes qui n'auraient pas cette forme grave?
Si on avait eu le vaccin il y a un an, on aurait évité 110 000 morts, des services totalement embolisés et sans doute des milliards d'euros à la sécurité sociale.
André Grimaldi, cofondateur du collectif Interhôpitaux et professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Vous entendez, Bertrand, c'est pas du tout l'impact à long terme. Lui, c'est la question vraiment, est-ce qu'il a intérêt? Il voit pas bien pourquoi il serait vacciné.
Oui, mais enfin, c'est un débat de pays riche, franchement.
Vous savez, moi, mais ça n'empêche pas de l'avoir.
Ouais, des collègues me montrent les vidéos en Tunisie et ailleurs où ils n'ont pas de vaccin. Nous, en train de débattre, on fait un fil bouche. Alors, il se trouve que ce virus, il mute. Hein, et donc, il y a des formes graves, y compris chez les jeunes. Hein. Dans la première vague, il y a une jeune de 14 ans qui est morte à l'hôpital de Necker. Donc, l'idée, je prends des risques, je prends mon risque. C'est pas très, très, en santé publique, c'est pas tout à fait acceptable. Et puis, alors, le vaccin, il protège pas à 100%. C'est l'ensemble des mesures qu'il faut prendre. Hein. Il y a en France, il n'y a pas que les personnes âgées. Il y a des personnes en surpoids et obèses. Il y a 4 millions de diabétiques. Alors, on dit, ils seront protégés par le vaccin. Oui, mais il y a aussi les immunodéprimés. Il y a 200 000 immunodéprimés. Alors, ils peuvent mourir, c'est pas de problème, puisque c'est pas vrai. Hein. Chaque geste est un geste pour soi, mais un geste pour les autres. Un réflexe citoyen. Alors évidemment, notre société a beaucoup évolué vers un individualisme. Moi, je vis à Paris et donc je vois les vélos sur les trottoirs, qui ne respectent aucun feu rouge, etc. Si c'est ça la santé publique, on ne fera pas société.
Bertrand, l'argument de la...
Donc, je pense qu'il y a un minimum, ce qu'on appelle tout simplement...
Le civisme.
Un civisme.
Bertrand, quand tu entends l'argument...
On attend que le virus mute, et deviennent dangereux pour les jeunes. Alors à ce moment-là, on dira oui, je me vaccine. Je crois que la société a suffisamment payé. On a la chance inouïe.
Je voudrais juste qu'on écoute Bertrand réagir. Bertrand, quand tu entends la question du civisme.
Le virus mute et on fera la vaccination pour les plus jeunes. Enfin, c'est pareil. Là, il y a le lambda qui apparaît. Alors, je n'ai pas de chiffres ni rien pour l'instant, parce qu'il apparaît comme plus résistant au vaccin. C'est-à-dire qu'on va remodifier. Ça va faire un vaccin comme la grippe, avec des multiples souches tous les ans. On fera. Et puis, il y a une partie de la population qui le fait et d'autres pas. Et puis ça finira comme ça, mais de toute manière, je veux dire, c'est comme le professeur Pittet qui disait, le virus, il va continuer à se transmettre, on va vivre avec, et ça va faire partie des familles de coronavirus. Et moi, je le rejoins totalement là-dedans. C'est-à-dire que c'est une unité collective, elle sera aussi quand tout le monde sera, entre guillemets, infecté, alors infecté même vacciné. Mais je veux dire, c'est la finalité de la vie.
Mais l'idée de protéger les autres, Bertrand, c'est pas un argument qui fait mouche chez toi.
Parce que pour moi, ça protège pas les autres de pas être vacciné. D'être vacciné, je veux dire, c'est pas une protection pour les autres. Je veux dire, quand on est encore à 36% capable de transmettre le virus, c'est-à-dire une personne sur trois, donc si moi j'en contamine 6, par exemple. La personne qui est vaccinée va en contaminer 2, mais elle en contamine quand même 2.
Oui, mais du coup, la statistique, ça n'a pas d'impact. Tu te dis pas, c'est
non,
déjà mieux que rien. Toi, c'est zéro
non,
ou rien
terme, sur le long terme, dans tous les cas, il y aura, entre guillemets, 100% qui sera contaminé à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est que le facteur d'atténuation des formes, mais c'est-à-dire, ça ne va pas changer l'issue. Et au contraire, pour moi, on retarde l'issue, parce que moins on laisse contaminer, moins les corps humains apprennent à se défendre. Et plus on va avoir de problèmes.
Tu veux faire fonctionner ton propre corps, argument qui est effectivement très utilisé pour ne pas se faire vacciner. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. Un grand merci à André Grimaldi, cofondateur du collectif Interhôpitaux et professeur émérite à la Pitié.
La santé publique, c'est pas tout à fait comme le foot. Hein. On dit toujours qu'il y a 67 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France. On peut tous avoir un avis sur qui doit jouer, qui doit pas jouer. Par contre, sur la santé publique, moi, quand j'écoute le professeur Grimaldi, il a fait 15 ans d'études, il a 30 ans d'expérience. J'ai plutôt tendance à lui faire confiance. À lui, voilà. Mais peut-être que j'ai tort, je sais pas.
On vous attend au 32-16 pour discuter avec nous des restrictions potentielles pour des non-vaccinés. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On vous attend, à tout de suite.
RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Interdiction d'accès à certains lieux, interdiction d'exercer sa profession. 61% des Français désormais sont favorables à des restrictions pour les non-vaccinés. Alors vous, qu'en pensez-vous? Pour Laurent Neumann, il est pour. Si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, il n'y a pas d'autre choix. Pour Alexandre Devecchio, il est contre. C'est une atteinte trop forte aux libertés. Et on va retourner au 32-16.
Ah. RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Le 32-16 a eu un petit retard à l'allumage.
On y est, il est là, le 32-16. On était avec Vincent qui nous appelle depuis Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Toi, tu as eu ta première dose. Est-ce que tu le penses qu'il faut mettre en place des restrictions pour ceux qui refusent de se faire vacciner?
Non, je ne pense pas que les restrictions ce soient utiles ou nécessaires.
Oui.
Je pense que ce sera une galère à mettre en place. Les restrictions, notamment, je pense aux restaurateurs, aux salles de concert, enfin à tout ça, que ça risque de coûter un fric fou encore en test, et puis que pour justement ces restaurateurs, ces salles de concert, eux ils ont déjà pris très cher, les priver d'une partie de leur clientèle, c'est encore leur faire peser sur eux les choix de certains. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus malin que ça et qu'on peut trouver d'autres solutions. D'incitation et voire même de compensation. Je pense notamment aux limitations de remboursement, notamment des tests.
Pour les tests, ouais.
Peut-être pour autre chose. Parce qu'à partir du moment où tu fais le choix de ne pas te vacciner, les tests de confort, ceux que j'appellerais de confort pour pouvoir aller justement là où serait mis en place un pass sanitaire. Qui reste très discutable pour moi, mais bon, ceux-là, pour moi, ils ne devraient pas être remboursés, clairement. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, se faire vacciner, c'est un geste de solidarité envers ceux qui sont plus à risque. Pour beaucoup de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est des gens qui ne sont pas à risque ou pas à risque de forme grave. Et ceux-là, ils pensent pour moi, pas assez à la solidarité envers ceux qui auraient des risques de forme de grave. Et donc, je disais au standard que pour moi, il y a autre chose dans notre société qui fonctionne sur ce principe de solidarité, c'est la sécurité sociale. Et que pour moi, je serais pour leur faire participer plus par mesure de compensation.
Ah ouais, tu veux dire, si tu attrapes la maladie, que tu vas à l'hôpital ou que tu dois être soigné, t'es pas ou peu remboursé si tu n'étais pas vacciné?
Première chose, ouais.
Vincent, c'est vachement intéressant parce que j'ai eu cette discussion-là avec un copain hier soir. On a eu exactement la même discussion. Et il m'a fait une autre suggestion qui a trotté dans ma tête depuis hier. Il dit, si le gouvernement veut accélérer la vaccination maintenant, il peut dire un truc très simple. À partir du 1er septembre, le vaccin, c'est 150 euros. Et là, tu vas voir, il m'a dit, tout le monde va se précipiter pour aller.
Dépêchez-vous, parce qu'à un moment, ça va devenir pire.
Tout le monde va aller se précipiter pour se faire vacciner maintenant, si on leur dit c'est 150 euros à la rentrée.
Ouais, c'est
Alexandre, cette proposition.
Je dis pourquoi pas, mais c'est un peu prendre les gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour des gens négligents. Alors je crois que le problème c'est pas l'argent, c'est les gens qui ont des doutes pour leur santé, qui pensent qu'ils vont avoir des effets secondaires dans 5-10 ans. Je suis pas sûr que vous allez les convaincre.
On
pour
a entendu
150
les auditeurs
euros,
qui disaient j'avais pas le temps.
Ouais,
si ça peut accélérer le rythme.
Alexandre, je peux te dire que parmi ceux qui vont partir à l'étranger là pour leurs vacances et qui ont appris que pour aller faire un test PCR au moment de rentrer en France,
ça allait coûter 150 euros.
Ça peut coûter entre 120 et 160 euros en Espagne ou au Portugal. Quand tu descends au Portugal avec 3 enfants, vous êtes 5 fois 160 euros. Dis donc, c'est un sacré budget. Donc si tu dis aux gens, attendez, vous vaccinez, Tu vois, peut-être que la question financière.
On rappelle d'ailleurs que la France était à peu près le seul pays à ne pas faire payer, y compris les étrangers qui venaient sur leur sol pour le test PCR.
Enfin, que le vaccin devienne payant, sincèrement, j'y crois assez peu. Ça va quand même à l'inverse de.
Non, mais on a le droit d'avoir des idées.
Absolument. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. On est avec Mathieu qui nous appelle de Villeneuve-d'Ornon, c'est en Gironde. Mathieu, toi, tu étais méfiant sur le vaccin et tu as finalement été te faire vacciner.
Oui, bonjour.
Salut,
oui,
Mathieu.
Exactement, moi. J'étais très méfiant, j'étais comme tout le monde, j'avais ma part de qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi se faire vacciner. Et puis en fait, c'est tout simple, en fait, c'est pas pourquoi, maintenant on est obligé. Il faut absolument convaincre cette maladie, convaincre ce virus. Et il faut arrêter aussi que ce virus se développe, et pour qu'il arrête de se développer, il faut qu'on en arrive à contre-attaquer nous et se faire vacciner en masse, quoi.
Alors attends, ça m'intéresse, Mathieu. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Quel est l'argument qui a fini par te convaincre alors que tu étais réticent?
Tout simplement penser aux autres. Parce qu'en fait, on pense à nous, on dit oui, qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc c'est une formule d'égoïsme. Parce qu'en fait, si nous, on dit, j'ai assez d'anticorps, moi je suis assez solide, je peux m'en passer, il n'y a pas de problème, vous êtes très bien. Mais qu'est-ce qui nous prouve que la centaine de personnes qu'on a croisées dans la journée est aussi solide que nous? Rien du tout. Tandis que si on le contracte de forme beaucoup moins grave, que tout le monde se fait vacciner, alors peut-être qu'on pourra leur transmettre, mais en beaucoup moins grave, ils s'en remettront et il y aura. Enfin, voilà quoi, je veux dire, pour moi, c'est.
Ça devient un devoir, en fait, pour toi.
Mais en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. Pour moi, maintenant, c'est un peu comme le vote. C'était un droit, maintenant, c'est un devoir. C'est un devoir. Pour protéger tout le monde, c'est un devoir.
Bon, Mathieu, t'es plus efficace que nous, je pense, pour convaincre les non-vaccinés. On va t'envoyer en campagne avec Olivier Véran, peut-être.
Clairement, moi, c'est mon point de vue. Après, moi, ce qui m'a fait aussi passer le pas, c'est le fait de passer par un sans rendez-vous. Je sais que je suis en déplacement aussi, donc je vais dans toute la France. Là, je suis en Corrèze. C'est pareil, je croise du monde partout en France. Je suis obligé d'être vacciné. Sinon, comment je fais? Je peux choper ça n'importe où, je ramène chez moi. C'est compliqué quand même.
Donc toi, t'es allé te faire vacciner, t'as été pris tout de suite et après...
Voilà, on est pris de suite, on remplit un petit dossier. Allez, il y en a pour 10 minutes avant vaccination. On se fait vacciner, on reste dans la pièce sous surveillance 15 minutes. Ça nous prend 30 minutes de notre temps, franchement, pour sauver... peut-être que je vais sauver 10, 15 vies, on ne sait pas. Les personnes que je vais croiser, on ne peut pas savoir. Peut-être que je vais en sauver zéro. Mais au moins, j'ai fait le geste, j'ai fait mon devoir.
Merci Mathieu d'être venu nous raconter ton expérience à toi. On est avec Benjamin qui nous appelle de Cognac. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Toi, tu as eu tes deux doses. Tu penses qu'il faut restreindre les activités de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner?
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, je pense que créer ce qu'on pourrait appeler une petite sorte de jalousie, ça pourrait peut-être faire avancer les choses plutôt que de trouver des sanctions financières comme de payer le vaccin 150 euros ou les tests. C'est... Pour moi, c'est encore plus dur, je pense, que de priver les non-vaccinés de l'accès au resto ou au concert.
Alors, tu penses à quelles activités? Tu vois, par exemple, il faut un test ou un vaccin, par exemple, pour aller au restaurant, pour aller dans sa salle de sport, pour aller au théâtre, au cinéma?
Ouais, les activités de loisirs qui peuvent être accessibles normalement à tout le monde, les limiter à ceux qui sont sûrs pour les autres spectateurs, pour les autres sportifs, pour les autres...
Tu n'irais pas jusqu'à interdire l'entrée des magasins, quand même?
Bah non, parce que je suis commerçant, donc... Le problème, la différence, c'est que dans les commerces, on a toujours le masque. Depuis maintenant, le mois de juin l'année dernière, les masques sont disponibles, obligatoires. Donc moi, j'ai commencé, je faisais une petite épicerie il y a un an et demi, sans masque, en pleine campagne. On était certainement plus en danger que maintenant. Maintenant... je pense que si on met pas une incitation, alors pas financière, parce que ça fait un peu cher, ça fait un peu beaucoup, je trouve, mais une incitation, une privation de loisirs, je pense que ça peut plus acter les choses.
Ok, et ben on finira avec toi, Benjamin, qui fait partie des 61% de Français qui sont favorables avec des restrictions pour les non-vaccinés. Quel est le résultat des votes, Lisa Marie?
Eh bien, notre baromètre est aligné avec le sondage BFM TV. Vous êtes finalement 59% favorables à la mise en place de restrictions pour les non-vaccinés.
Ouais, le ministre de la Santé vient de tweeter, il a dit le vaccin est...
T'es sur Twitter, toi, maintenant?
Ben oui, regarde, tu vois.
Incroyable.
Mais je fais des progrès.
Ouais.
Le vaccin est à 95% efficace contre les formes graves, mais à 100% efficace.
On le contre le confinement.
Voilà.
Moi aussi, j'ai Twitter. Allez, on va parler de la semaine de 4 jours.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Voilà un bon combat. La semaine de 4 jours a fait ses preuves, Lisa Marie, en Islande.
Oui, après 4 ans de tests, la plus grande expérience de réduction de temps de travail s'est avérée être un succès fracassant en Islande. Plus d'1% de la population islandaise a expérimenté entre 2015 et 2019 le passage à la semaine de 4 jours de travail, le tout sans réduction de salaire. L'expérience incluait des employés habitués au rythme 9h-18h, ainsi que d'autres travaillant sur des horaires décalés. Elle se déroulait dans 100 lieux de travail différents, comme des bureaux, des écoles, des hôpitaux et des services sociaux. Une précision importante, les employés sont passés de 40 heures sur 5 jours à 35 heures sur 4 jours. Résultat, travailler moins pour produire pareil, eh bien, ça marche. Les 2500 participants ont observé une amélioration de leur bien-être, de leur productivité et une meilleure gestion de l'équilibre vie pro-vie perso. Cette semaine de 4 jours de travail séduit de plus en plus de pays comme le Royaume-Uni, où 45 députés ont signé une motion pour demander au gouvernement d'étudier la proposition. En Espagne, le gouvernement a décidé de tenter l'expérience et les essais vont débuter cet automne sur une période de 3 ans. Alors vous me voyez venir, je vais vous poser la question, à quand la semaine de 4 jours en France ?
Bah vas-y Laure, c'est ton combat
mais attends,
personnel.
Mais suis Laure, toi t'adores. Mais bien sûr, 4 jours travailler beaucoup, 4 jours comme ça, paf.
Condensé, 4 jours condensé.
3 jours de repos, t'es frais comme un gardon le vendredi soir, t'as fait toutes tes courses le vendredi. Que
excuse-moi, juste une chose.
Excellente proposition.
Les Islandais, ils ont découvert le fil à couper le beurre là, parce qu'il y a eu la même étude menée en 2019 par Microsoft, auprès de 2300 salariés, et eux, ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions, et même ils sont allés plus loin, ils ont découvert que du coup, ça faisait baisser la consommation de papier dans les bureaux de 60%, que ça faisait baisser la consommation d'électricité de 23%, et que surtout, le bien-être au travail était absolument décuplé. Les Irlandais sont en train de mener l'expérience là en ce moment, et j'ai appris, figure-toi, que les Japonais venait de le recommander aux entreprises privées.
Oui, tout à fait.
Et qui vont l'expérimenter peut-être dans leur propre service public.
Moi, j'aime mon travail et je suis pour travailler 7 jours sur 7.
7 jours sur 7,
pas de repos pour Alexandre.
Non,
c'est parce que tu travailles pas à la mine.
Plus sérieusement, c'est pas étonnant que Microsoft, finalement, soit favorable à ça, parce que l'évolution qui a l'air positive comme ça, c'est aussi le remplacement par des robots, etc. Donc, je suis pas sûr qu'on aille forcément vers une société de loisirs en allant vers la société de 4 jours par semaine. On va aussi vers une société de précarité qui peut être inquiétante.
Mais là, l'Islande, c'était pas uniquement sur des employés de bureau, c'est pour ça en fait. Eux, ils l'ont fait vraiment dans les hôpitaux, dans les écoles, vraiment pour tout le monde, et c'est une grande première, et c'était 4 ans de test.
Ouais,
et je vais commencer par me l'appliquer à moi-même, parce que l'année prochaine, je ferai des semaines de 4 jours, donc je serai bien. Je pourrais vous dire, si c'est bien.
Je n'ai même pas demandé mon avis.
Ben, ça sera pas avec toi, mon Lolo. On va se séparer, on va divorcer, mon petit
cher. Non, on se séparera jamais, toi et toi.
Dans un instant, merci Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. C'est la fin de Neumann Le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve demain midi 14h. C'est l'heure de parler Tour de France avec Christophe Cessieux. Christophe, il y a de la casse, ça a l'air dangereux ce Tour de France. Christophe, est-ce que tu es là pour la 12e étape du Tour de France aujourd'hui? Et bien ça sera dans la Drôme et il vous racontera dans un instant Intégral Tour. Toute cette casse, ça a l'air pas facile. À tout de suite.